est différent. Chaque culte est un moment particulier et un temps à vivre de manière personnelle. Malgré que on puisse préparer des chants, les répéter, préparer le message et méditer, au moment où nous sommes appelés à le vivre, Dieu agit d'une manière incroyable parce qu'il nous fait sortir de ce que nous avions peut-être imaginé. Et je trouve que ça, c'est merveilleux. Pour que nous puissions expérimenter, non pas nos préparatifs, mais sa présence. Il y a des cultes où la louange, elle est très exubérante. Il y a des cultes où la louange est beaucoup plus calme. Il y a des moments où il y a beaucoup de prières, on a presque du mal à arrêter. Il y a des moments où on sent que c'est un moment de partage plus intime, plus personnel, n'est-ce pas? Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous ce matin, et peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est de nous dire que le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin et qu'il ne manquera pas de répondre à nos besoins. Alors avant d'ouvrir la parole de Dieu, cette parole qui est bénie, pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, je n'ai rien à rajouter. J'aimerais prier pour que le Seigneur bénisse nos cœurs, qui allons la recevoir, pour que nos cœurs soient bien disposés, pour que ce ne soit pas nos raisonnements intellectuels ou notre sagesse humaine, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous éclaire et qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. On va fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, nous nous approchons de toi, ce n'est pas d'un homme que nous nous approchons, c'est du Dieu vivant, c'est de l'Éternel. Et ta parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur espère, attend, désire. Seigneur, notre cœur s'attend à toi. Notre cœur espère en toi. Seigneur, encore ce matin, notre cœur, Seigneur, attend de ta part une parole. Seigneur, qui puisse nous aider, qui puisse nous fortifier, qui puisse, Seigneur, changer notre regard, Seigneur, sur ce que nous vivons. Et Seigneur, qui puisse tout court changer notre cœur. Si encore ce matin devait y avoir, Seigneur, des blocages, si encore ce matin devait y avoir, Seigneur, des choses qui nous lient, qui nous retiennent, nous te prions, Seigneur, libère nos cœurs, libère nos mains, nos pieds, pour que nous puissions courir, Seigneur, vers toi. Seigneur, pas seulement te recevoir dans notre cœur, mais nous blottir dans le tien. Seigneur, sentir ton amour, recevoir ta paix, ton pardon, ta grâce. Merci, Seigneur, encore de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, qui partageons cette parole, Seigneur, nous te prions pour ceux qui vont, Seigneur, l'écouter peut-être par la suite. Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, encore saisir leur cœur. Que ta parole puisse encore transformer des vies. Nous le croyons, nous le confessons et nous le proclamons pour nous-mêmes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 2. Nous avons entamé il y a 15 jours une série de messages sur « Soyez dignes ». Et ce matin, j'aimerais partager avec vous ce texte qui nous amène au fait d'être digne de son invitation. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 2, nous dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi, et c'est Jésus qui parle, qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et l'autre se saisit des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtrières et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de conviés. Le roi entra pour voir les conviés, les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » En lisant ce texte, qui est quand même souvent fait partie des lectures que nous pouvons faire pendant l'année, lectures personnelles, lectures de partage de la parole de Dieu, annonce de l'Évangile, on est interpellé par les paroles de Jésus. Jésus qui dit à plusieurs reprises, le royaume de Dieu est semblable. Il y a cette similitude pour permettre à nous qui sommes ici-bas de comprendre ce qui se passe dans le ciel. On est loin de pouvoir imaginer réellement ce que Dieu prépare dans le ciel. Alors Jésus, pour nous y aider, il a pris des exemples qui devraient nous encourager en tous les cas à tenir compte du moment, du temps, de ce que Dieu prépare. Et il dit dans le texte qu'il est question pour nous de participer à un festin. Il est temps de festin. On pourrait se dire, c'est étonnant, hein, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, comment est-il possible qu'il y ait un festin ? Nous, on a le sentiment que les plans de Dieu se soient arrêtés parce que l'homme est tordu. Parce que l'homme est têtu. Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Parité, égalité, fraternité et amitié. Le cœur de l'être humain est tordu. Et on pourrait croire qu'à cause de cela, Dieu a mis de côté ses projets. Il a dit, bon, attendons de voir quand ils seront meilleurs. Mais l'homme n'est pas comme la bouteille de vin. On dit qu'il y a certains vins, il faut les laisser pour qu'ils se bonifient. L'homme, il a tendance à devenir un peu vinaigre. Surtout quand il prend des airs. Surtout quand il pense que Dieu n'a rien fait pour lui et que Dieu ne peut rien pour lui. Et dans ce texte, Jésus annonce quelque chose en disant, voilà, les noces sont prêtes. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 7, Apocalypse, le nom Apocalypse n'est pas forcément le plus juste. Le nom devrait être celui de la révélation, hein. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors comment l'épouse s'est préparée? À nouveau, dans ces temps si compliqués, dans ces temps si difficiles, peut-on avoir le cœur à préparer les noces avec le Seigneur? Mais je pense que c'est justement parce que nous voyons ce qui se passe autour de nous que nous devons davantage travailler à préparer pour dire, Seigneur, reviens vite. Mais est-ce que nous sommes prêts? Parce que regardez, dans le texte, il y a quand même des temps de préparation et des temps d'organisation de la part du roi. Et il envoie une première invitation. Il dit au verset 3, il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités. Donc, qui avait déjà reçu une invitation. Ils étaient prévenus. Ils avaient été informés. Ils avaient eu le temps de disposer de leur timing en disant, à telle date, j'ai un rendez-vous. Je ne prendrai pas d'autre rendez-vous. Quand vous recevez une invitation pour quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un peu comme moi, moi je le note partout. Parce que des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors je note sur ma tablette, sur mon téléphone, sur l'agenda. Les gens me disent, mais vous notez partout. Oui, partout. Plus je note, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que notre mémoire peut nous faire défaut. Non ? Et là, le texte nous dit, allez inviter ceux qui étaient invités. Et il dit, mais ils ne voulurent pas venir. Quel moment difficile, quelle tristesse pour ce roi qui a tout préparé et qui a tout pris en avance, préparé en avance, organisé dans les moindres détails. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils n'ont pas voulu venir. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 46, il nous est dit, Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Notre renoncement, notre refus de participer aux noces du roi des rois nous rend indignes. Nous nous jugeons nous-mêmes indignes d'être présents. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas de nous, c'est que nous ne voulons pas de Dieu. C'est que nous, nous considérons que cette invitation, elle ne nous concerne pas. Nous sommes occupés à d'autres choses. D'ailleurs, si vous regardez, il y a cette première invitation qui est faite. Non, on est occupé. Vous imaginez organiser un mariage et que personne ne vienne le jour venu. Alors, les mariés, ils auront de quoi manger pendant un boom. La famille, elle va manger, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé, et pendant des semaines, voire des mois. Ça arrive parfois qu'on prépare et qu'on se trompe dans les doses. Elle est où, ma femme ? Elle s'est cachée au fond, ma femme. Et quand on prépare une grosse quantité, d'un coup, on en mange une fois, deux fois, trois fois. Après, vous ne priez plus pour le repas, parce que le repas, vous savez qu'il est bon, il est béni. Vous priez pour vous, parce que vous dites, Seigneur, aide-moi, parce que j'en peux plus. J'en peux plus, Seigneur. Toujours le même repas, c'est bon. Trois fois, quatre fois. Mais là, le roi, il n'est pas question de faire ça. Alors, il renvoie à nouveau, il revoit nouveau. Je dirais que le refus de prendre part aux noces de l'agneau se traduit par une exclusion, une auto-exclusion de l'éternité avec Dieu. Si le premier temps que nous venons de partager, c'est un temps de festin, ça donne suite au temps des efforts. Pourquoi ? Parce qu'il envoie finalement à nouveau, il envoie encore d'autres serviteurs en disant « Allez les inviter ». Faites-le. Allez à nouveau. Et on voit la manière où Dieu tend des efforts pour que l'homme revienne à lui. Tout au long de l'histoire de l'humanité, quand nous prenons la parole de Dieu qui nous relate tous les efforts faits par Dieu pour atteindre le cœur des hommes, excusez-moi de dire, mais les hommes, on est vraiment très méchants. Et je suis gentil en disant ça. Pourquoi ? Parce que qui accepterait finalement de continuer d'insister à inviter quelqu'un quand la personne ne veut pas venir ? Si vous invitez quelqu'un une première fois, elle vous dit non. Mais au préalable, elle vous a dit oui. Mais au moment de venir, non. Vous l'invitez une deuxième fois parce que ça peut arriver. Ça vous est arrivé déjà ? Un imprévu peut arriver. Non. Une troisième fois, vous l'invitez. Non. Est-ce que vous l'invitez une quatrième ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne l'invitez pas ? Mais ce n'est pas que vous cuisinez bien. Pourquoi tu ne l'invites plus ? Sébastien, dis-moi. Ah, on connaît déjà la réponse. Et pourtant, Dieu insiste. Parce que malgré qu'il connaît la réponse, il sait aussi ce qui va se produire suite à cette réponse. Et il ne veut pas nous laisser dans notre ignorance. Parce qu'on peut croire savoir toute chose, mais on est loin de savoir le pourquoi de cette invitation. Ce n'est pas que le moment du repas d'énonce, non, ça va bien plus loin. Et parfois, on peut être pris par nos habitudes, nos idées, et les uns y partent et négligent l'invitation, ils ont des excuses. On est les rois des excuses. Certains disent, attends, moi j'ai un terrain, je suis pris par les choses de la terre. Je suis pris par les besoins de la terre. Ils croient, eux, posséder la terre, mais c'est la terre qui les possède. Croyez-moi. Le deuxième, il dit, attends, j'ai des affaires. Money, money, money. Les sous, les sous, les sous. Besoin de sous. Il y en a, ils ne parlent que de sous. J'avais un collègue au travail, il s'appelait Philippe. Dès qu'il arrivait le matin, la première chose qu'il disait, ce n'était pas bonjour. Ah, si j'étais riche. Tous les matins. Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Et un jour, je discute avec lui et il avait en effet déjà 3 maisons. Et il se plaignait. Ah, si j'étais riche. Et ça nous fait comprendre que malgré que nous puissions avoir plein de choses, on a une soif de quelque chose de matériel, en pensant que ça va nous donner, nous apporter la joie, le bonheur, la tranquillité, la paix. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, merci pour les impôts. Ça vous étonne ? Ça vous étonne que je dise merci pour les impôts ? Un jour, je discutais avec quelqu'un, il se plaignait parce qu'il devait payer beaucoup d'impôts. Mais beaucoup d'impôts. Elle me dit, tu te rends compte, là, aux impôts ? J'en ai quasiment pour 12 000 euros d'impôts à payer. Et moi, je lui dis, tu as raison de te plaindre. Je comprends, tu devrais en payer 24. Elle dit, mais non, c'est pas normal, tu te rends compte, 12 000 euros ! Oui, mais si tu payes 12 000 euros, tu gagnes combien ? On ne parle pas d'argent. Mais c'est ça, l'être humain. Et cela devient une excuse pour dire non à Dieu, comme si l'argent nous permettrait après, par la suite, de pouvoir acheter le ticket gagnant. Et il y a des choses dans la vie qui nous ramènent véritablement à découvrir que l'argent n'est pas tout. On peut avoir beaucoup d'argent, par exemple, et ne pas être heureux. On peut avoir beaucoup d'argent et en tous les cas, ne pas avoir le moyen de se soigner. Pas parce qu'on ne peut pas payer, mais parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soins qui nous permettent en réalité de sortir de notre problématique. Prenez quelqu'un qui est très riche. Il y en a aujourd'hui, croyez-moi, il y a des gens très riches qui essayent de découvrir la manière de se procurer l'éternité. Les lésirs de la jeunesse, rester jeune. Alors parfois ils essayent. Lifting. Et avec le temps, leur visage change, leur personnalité change, ils se croient jeunes. Sauf que leurs artères, après, leur rappellent qu'ils ne sont pas jeunes. Parce qu'on a l'âge de nos artères quand même, non ? Il y a des moments où Dieu permet certaines choses pour nous rappeler qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous devons véritablement considérer notre vie et qui n'est qu'un passage ici-bas. Et si le fait d'avoir une maison, un terrain, Dieu n'est pas contre ces choses-là, il nous les donne. Parce que vous savez, si un jour on a la possibilité d'acheter une maison, c'est parce que Dieu nous l'a permis. Hein. Il n'est pas contre, tant que la maison ne prend pas la place de Dieu. Abraham, il fut fort riche. Je pense que même pas lui savait combien il était riche. Hein? Mais est-ce que vous voyez Abraham compter ses sous sous la tente ? Il était où Abraham ? Devant sa tente et il voit venir les anges de Dieu. et se précipite. Parce que son regard n'était pas sur la fortune, c'était sur son bonheur éternel, Dieu. Et il ne s'inquiète pas de ses besoins personnels, il s'inquiète de cette ville qui va être détruite à cause de ses péchés. Et il intercède pour cette ville. Mais s'il y a 100 justes, et peut-être il n'y en a pas 100, il n'y en aura que 50. Et vous connaissez l'histoire. Et il intercède, il demande à Dieu de faire grâce. Pourquoi ? Parce que l'important, ce n'était pas l'argent. C'était la vie éternelle, le salut éternel. Et le texte nous parle de pas seulement de ceux qui refusent l'invitation, mais il nous parle aussi de ceux qui finalement, ils vont même tuer, blesser, outrager. Et là, ça nous ramène à ce moment où Jésus vient, le Fils de Dieu, pour nous annoncer le royaume des cieux, pour nous inviter, et lui-même, il va être pris, outragé et tué. Jésus est en train d'annoncer à la foule en lui disant « Voilà comment votre cœur va se déterminer, comment votre cœur va agir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris conscience de l'intérêt que Dieu porte à notre vie. Parce que si Dieu continue à nous interpeller, à nous inviter, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'à ses yeux, nous sommes importants. Il s'intéresse à nous. Il veut investir sa vie en nous et il veut que notre vie soit en lui. C'est pour ça qu'il insiste, même après 4, 5, 6, 7. Moi, je ne compte plus la quantité d'invitations que Dieu m'a faites. Et je dis merci Seigneur pour ta patience. Je ne pense pas avoir la patience de Dieu. Et vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il dit le texte, ils s'en allèrent, certains à leur champ, d'autres à leur commerce, l'autre saisirent les serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Et après, il nous dit qu'à un certain moment, le roi envoya son armée pour tuer ceux qui avaient tué. Si vous regardez bien dans l'histoire, en l'an 70, après Jésus-Christ, les Romains viendront tuer la plupart des Juifs qui habitaient Jérusalem et détruiront le temple. Ce que Dieu dit, Dieu fait. Luc chapitre 18, versets 7 et 8, il dit « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tarderait-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Est-ce que tout ça, ça nous amène à examiner où nous en sommes, nous, encore aujourd'hui ? Le roi fut irrité. Dieu peut s'irriter, peut se mettre en colère. Mais encore, il est le temps de la patience de Dieu, même si ce temps arrive tout doucement à son terme. Vous êtes patient, vous. Ce matin, dans le moment de préparation et de prière avant les chants, je partageais ce texte de Jacques qui nous dit que les épreuves, elles sont là pour accomplir notre patience. Combien d'entre nous ont déjà prié, Seigneur, donne-moi la patience ? Levez la main. Vous avez été éprouvé après ? Ben c'est normal, c'est ce que vous avez demandé. Ah mais non, moi je ne voulais pas l'épreuve, je voulais juste la patience. Mais la patience n'est pas une tisane que Dieu... Non, non, non. La patience, on l'acquiert suite aux épreuves. Dieu permet des épreuves pour que finalement... nous puissions acquérir cette patience et œuvrer autrement. À partir de maintenant, je suis sûr que vous allez prier, Seigneur, donne-moi de la patience, mais pas tout d'un coup, par dose, homéopathique, tout doucement, Seigneur. Parce que les épreuves, ah non, Seigneur, c'est difficile, l'épreuve. Alors le texte nous parle de cette invitation, la troisième démarche. Il dira, allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qui se trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Alors là, à ce moment-là, en lisant ce texte, je me suis dit, Seigneur, il y a un truc qui je sais pas, il y a un truc qui me pose problème. Tes serviteurs sont allés inviter les bons. » C'est la troisième démarche. Est-ce que c'est les soldes de la vie éternelle? Pas du tout. Inviter les uns et les autres, c'est ce que Jésus lui-même a fait. Et bien que l'invitation est étendue à tous, méchants et bons, néanmoins la préparation personnelle est exigée. Ce n'est certainement pas l'évangile au rabat, au rabais. C'est pas avec 50% de bonté tu rentres dans la vie éternelle. Hein, vous savez, parfois, on pense que Dieu veut faire du chiffre. Ça l'intéresse pas le chiffre. Vous l'intéressez pas le chiffre. L'année dernière, il y a eu des milliers de baptêmes en France. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. On me l'a dit, mais poisson rouge. Des milliers de baptêmes. Et moi, je crois que, Seigneur, ce n'est pas des milliers de baptêmes qui l'intéressent. Est-ce que ces milliers de baptêmes, est-ce que c'est des vrais baptêmes? Est-ce que c'est des milliers de cœurs qui se sont donnés à Jésus-Christ vraiment? Alors on pourrait se dire, heureusement, moi, je ne me suis pas baptisé l'année dernière. Mais tu étais dans le comptage d'avant. Et quand ce sera le moment d'être devant Dieu, le Seigneur, ce n'est pas le chiffre qui l'intéresse. C'est notre cœur. C'est le plus profond de nous. Parce que s'il devait s'occuper des chiffres, eh bien alors on est mal. Non? Parce que si on devait recevoir la vie éternelle sur la base de la réussite de notre vie ici-bas, ça serait terrible. Ça serait impossible. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il envoya invités. Tout se passe au croisé des chemins, tous sont invités selon la coutume. Et vous savez, quand un roi a invité le peuple pour quelque chose de particulier, c'est le roi qui s'occupait d'habiller tous les invités. Parce que le peuple n'avait pas les moyens. Donc, puisque le roi voulait que le peuple soit présent, c'est le roi qui prenait en charge toute chose. D'ailleurs, vous avez vu, il les invite et dit « Venez, maintenant, maintenant, tu n'as pas le temps de rentrer à la maison, te changer. T'inquiète pas, le roi, il a tout prévu. » Frères et sœurs, le Seigneur a tout prévu pour nous. Parce que ce n'est pas à cause de notre dignité, ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas avec nos habits que nous avons préparés par notre orgueil que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Il y a l'habit du religieux. Il y a l'habit de la réussite. Il y a l'habit de l'humanisme. Il y a l'habit de la bonne pensée. Parce qu'on pense bien, forcément. Hein ? L'habit de la gentillesse. Il était tellement gentil. Il y a un dicton, moi je ne le connais pas bien, je ne veux pas prononcer, mais on dit de quelqu'un qu'on lui donnerait 100. Ça va loin là. C'est qu'il est parfait le gars. C'est Enoch. C'est un Enoch 2. Sauf qu'Enoch marchait avec Dieu. Et puisqu'il marchait vraiment avec Dieu, Dieu l'a pris dans le ciel. Moi, je ne suis pas Enoch. La preuve, je suis encore là. J'ai mes combats. J'ai encore besoin de beaucoup apprendre. J'ai encore besoin encore de changements dans ma vie. Et le jour où le Seigneur me prendra avec lui, je prie et je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Parfois, on prépare des habits dans notre tête. On a envie de donner un style. On se fait notre propre salut. On pense que le salut est lié aux règles qu'on va s'imposer. C'est la robe du légalisme. Ou peut-être on réduit les règles. Alors c'est la robe du libéralisme. On voit tout. Il n'y a pas de souci, on n'a rien à cacher. Moi, je crois qu'il y a des choses. Il n'y a que l'époux qui doit les voir, pas les autres. Ayons une tenue digne du Seigneur. Ayons une vie digne du Seigneur. Et il est question pour nous, non pas de nos propres habits, dit la parole de Dieu, mais Dieu a préparé pour nous une robe blanche. puisque chacun devait être invité pas seulement à se saisir de cette robe blanche, mais il était question aussi de rentrer dans la mentalité de ce qui allait se passer. Quand le roi est rentré dans la salle des fêtes, il retrouve quelqu'un qui n'est pas habillé. Qui a manqué, à votre avis ? Est-ce qu'au vestiaire, ils ont oublié de lui donner la robe ? Est-ce qu'ils ont mal fait de l'inviter ? Qui n'est pas rentré en réalité dans cette vision de ce que Dieu attendait de lui ? C'est l'invité lui-même, parce que suite à la question, il n'a plus de réponse. Et il y a un moment, vous savez, malgré toutes les excuses qu'on peut s'inventer, il y aura un moment devant Dieu, on n'aura plus d'excuses possibles, parce qu'on sait très bien que Dieu connaît la vérité. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Ah Seigneur, tu sais, j'étais très occupé. J'ai beaucoup souffert. Et lui, encore, il te montre ses mains, elles sont percées, ses pieds sont percés. La parole de Dieu nous dit qu'on le reconnaîtra. Vous vous rendez compte ? Il gardera ses pieds, ses mains percées pour l'éternité. Pourquoi ? Pour qu'on puisse le reconnaître. Ah Seigneur, si tu savais, j'ai vécu que des injustices. Et lui, il n'en a pas subi. Et nous, on lui en a fait combien ? Oui, nous, les bien habillés, les bien portants. On peut être même cravate, chemise, costard, gilet, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas pour autant qu'on est meilleur, parce que Seigneur, ce n'est pas l'habit qu'il cherche. Le cœur. Il est dans quel état ton cœur, mon frère, ma sœur ? Est-ce qu'on est conscient de quel état il est ? Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, chapitre 19, verset 8, « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Quelque chose d'éclatant, de pur. Il n'y a pas de tâche. Je me rappelle d'une fois, on m'a offert une veste blanche. Je pense qu'elle restait très peu blanche dans le temps. Je la mettais une fois et je la ramenais à ma mère. « Maman, tu peux la laver ?»« Oui, je te la lave, mais la prochaine fois, fais attention. » Je la remettais une deuxième fois. « Maman, tu peux la laver ? » ?»« C'est pas ma faute. C'est les murs, c'est ceci, c'est cela. » On a toujours une excuse. Mais là, cette robe, elle dépend de notre manière d'être et de notre manière de vivre. Parce que tant que je reste dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de poussière de ce monde. Quand je suis dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de saleté de ce monde qui pourront s'attacher et me tacher. Si je me tache, c'est parce que je suis sorti de la présence de Dieu pour aller traîner ailleurs, là où je ne devais pas être. Oui, mais tu comprends, Seigneur, je voulais aller évangéliser, mais ce n'est pas ton rôle. J'ai envoyé mon fils, et regarde comme ils l'ont traité, toi-même. Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire ? Prépare-toi aux noces. Nous sommes appelés à nous préparer et présenter de manière appropriée dans la présence de Dieu. Nous devons non pas seulement répondre à l'invitation en nous appropriant de ce qui est extérieur, la robe, mais aussi de ceux qui veulent trouver à l'intérieur de notre être. Il est question qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu. L'élection n'est pas extérieure. Il est arrivé de trouver des personnes à qui on a donné des responsabilités, mais ils n'étaient pas taillés pour le job. Ça vous est arrivé d'avoir un chef comme ça ? Moi, à l'armée, j'avais un capitaine, c'était un désastre. Un désastre. S'il y avait une bêtise, c'était lui qui la faisait. C'était lui. En plein mois d'août, alors qu'on devait faire des exercices de tir, il a voulu faire quelque chose qui a mis le feu à la montagne. On éteint la première fois le feu. Pas content. Il recommence. Et il remet le feu une deuxième fois à la montagne. On arrive à l'éteindre, pas content. Il rapplique une troisième fois. Et là, par contre, trois canadaires, les pompiers. Il avait le grade, mais il n'avait pas le cœur. Nous, on peut penser que c'est le fait d'avoir, excusez-moi, l'étiquette de chrétien, que pour autant, ça nous donne le cœur. Mais vous savez, Jésus dira, je ne vous connais pas, mais nous avons fait tellement de choses pour toi. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Alors, où est-ce que Jésus regarde ? L'étiquette ? Les étoiles ? On aime bien les étoiles. C'est joli, les étoiles. Non ? On aime bien quand ça brille. Aujourd'hui, regardez, les jeunes voudraient tous être des stars. Ils sont où, les jeunes ? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ? Levez la main. On est jeunes jusqu'à 99 ans, hein. Les jeunes rêvent tous d'être des stars, non ? Acclamés, riches et célèbres, très riches, très célèbres. Vous savez, autant on devient des étoiles, autant on peut tomber dans les étables. Et ça, c'est pas ce que Dieu attend de notre œuvre. Je pense que quand l'homme pense pouvoir décider, voire même imposer ses propres choix à Dieu, il se trouve confronté à l'autorité de Dieu qui ne fait pas de compromis, donc qui se sépare de celui qui vit dans la désobéissance. C'est le cas de cet homme qui rentre dans la salle des fêtes, il n'a pas voulu prendre les habits. Je dis, moi, je rentre quand même. Il y en a qui pensent que quand même, ils vont être sauvés. Il y a une vieille chanson, je ne la connais pas, j'ai juste une première phrase. On ira tous. Et toi aussi, hein ? C'est pas comme ça que ça marche. Parce que peut-être que quelqu'un aura fait un pas un jour en se disant, je suis allé à l'église, je suis sauvé. J'ai été baptisé enfant, je suis sauvé. Un jour, quelqu'un me disait, mais vous savez, j'ai été baptisé enfant. J'ai dit, mais vous savez, les prisons, elles sont pleines de personnes qui ont été baptisées étant enfants. Mais pleines ! La parole de Dieu dit, celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Quelle est la première démarche ? Un bébé, qu'est-ce qu'il peut croire ? La seule chose qu'il croit, c'est quand il a le biberon dans la bouche. Là, il y croit. Et s'il ne l'a pas, il crie. Donc la parole de Dieu, elle est claire, il n'y a pas de confusion. Celui qui croit et qui sera baptisé, parce qu'il a cru, sera sauvé. Donc notre salut est une question de décision. Matthieu chapitre 10, verset 38 dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Encore une fois, il est question de dignité. Alors, cette dignité ne vient pas de qui nous sommes. Cette dignité nous vient du simple fait qu'on a dit « oui, Jésus ». Si j'ai dit oui Jésus, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, mais parce que j'étais le pire. Si j'ai dit oui Jésus, c'est parce que finalement j'ai considéré que par moi-même, je n'y arrivais pas et que jamais j'aurais pu y arriver. Si aujourd'hui je prêche l'évangile, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, c'est par la grâce de Dieu. Et je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Et combien de fois je dis Seigneur, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a des combats à l'intérieur. Vous savez, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a un petit nuage qui nous attend dehors et on... Tu te déplaces au nuage, toi ? Tu fais le plein aussi ? Non, mais tu fais le plein aussi à ta voiture. Tu voyages pas en nuage. D'accord. Bon. Ça me rassure. Le Seigneur nous invite à être avec les pieds sur terre, mais la tête et le cœur dans le ciel. Il est question pour nous des premiers qui n'étaient pas dignes de l'invitation. Il était question des deuxièmes qui ont même outragé, tué. Et il est question d'une dernière invitation qui est faite pour que la salle des fêtes soit prête. Qu'est-ce qui se passe quand la salle des fêtes est prête ? Le roi vient, juge celui qui n'était pas prêt. Mais après quoi, qu'est-ce qui se passe? Le but est atteint, non? On ferme les portes. Et ceux qui ne sont pas venus à la première ou à la deuxième invitation, même s'ils viennent frapper à la porte en disant « Mais attends, moi j'ai le carton d'invitation », qu'est-ce qu'on lui répond? Trop tard. Alors faisons que nous n'ayons jamais, nous, à entendre cette réponse. Mon ami, trop tard pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Mais ce n'est pas trop tôt non plus. Hein. Parce que les noces, elles sont prêtes. Les invitations étaient envoyées première fois au peuple juif. Ils l'ont refusé. Deuxième fois, c'est Jésus lui-même. Il a été outragé. Il a été mis à la croix. Et pas que lui. Et aujourd'hui, l'évangile est prêché au croisé des chemins pour que tout le monde puisse entendre. Et ceux qui rentreront, ceux qui auront accepté de se revêtir de la robe blanche, non pas parce qu'ils sont d'une extraction sociale importante, ce n'est pas ce que Dieu cherche, mais parce qu'ils ont accepté de dire « moi, je veux être avec Dieu pour l'éternité ». Et quand les portes seront, quand tout le monde sera rentré, la porte sera fermée. J'aimerais terminer avec ce texte. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Dieu nous a adressé une sainte invitation, une sainte convocation. On a le choix de dire oui, on a le choix de dire non. On peut chercher des excuses, mais tôt ou tard, ces excuses se retourneront contre nous. On a la possibilité d'agir et voire même réagir contre Dieu. On peut continuer à dire, moi, ceux qui annoncent l'évangile, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma propre vision des choses. J'ai mon regard personnel des choses. Mais le jour où on sera devant Dieu, c'est ni vous ni moi qui jugeons. C'est le roi. Et croyez-moi, malgré que, certes, ça lui fera de la souffrance dans son cœur, mais il vous dira ce que vous avez, malheureusement, pris comme décision, il la respectera. T'as pas voulu, ta place est dehors. Là où il y a la souffrance, là où il y a la peine. Pendant mon service militaire, il m'est arrivé de devoir faire la garde la nuit de Noël. Et alors qu'on faisait la garde, on entendait les autres festoyer. C'est terrible. Vous êtes là, il pleut, il fait froid. Il fait froid. Il pleut. Et ça tombait. On était mouillés, mais... Et les autres, ils étaient là, « Joyeux Noël !»« Et vas-y, tu veux un bout de gâteau ?» Et moi, j'avais un jeune avec moi, il dit « Balance-le par la fenêtre, je le prends. » Et je me suis dit, « Seigneur, qu'est-ce que ça va être alors pour ceux qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux ?» Vous savez, Dieu permet certaines choses pour nous parler beaucoup plus loin. Alors, je ne l'ai jamais oublié cette nuit de garde. Et j'ai dit, « Seigneur, aide-moi. Aie patience, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Seigneur, si je suis sourd, s'il te plaît, redis-moi les choses. Est-ce que quelqu'un est sourd ce matin? Parce qu'on peut prier pour que Dieu vous ouvre les oreilles. Il y a quelque temps, je discutais avec un frère qui me disait que Il faisait un culte. Et là, il y a une dame qui vient et qui... Il le regarde. Et elle prend un sourire de plus en plus. Et il ne comprend pas pourquoi cette femme sourit comme ça. Il se dit, bon, étonnante, elle est étrange, bon. Deuxième culte. Elle est là, elle s'agite. Elle s'agite sur sa chaise. Mais il n'a pas eu l'occasion là parce qu'elle part vite. Ça arrive encore aujourd'hui. Il y en a qui partent très vite. Troisième culte, il dit, ah, je l'attends à la salle parce qu'il faut que je comprenne pourquoi cette femme agit comme ça. Il y a un truc qui ne va pas. Premier culte, elle est souriante. Deuxième, elle s'agite. Ah, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Et donc, il la voit arriver. Il lui dit, alors, bonjour madame, je me présente, je suis le pasteur. Il dit, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous arrive parce que voilà, j'ai vu ça, ça et ça. Et je vous entends. Ouais, d'accord, très bien. Il dit, vous ne comprenez pas. Je vous entends. Il dit, oui, d'accord, mais il y a quoi de... Il dit, j'étais sourde. Et maintenant, j'entends. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, il y en a qui aient arrêté d'être sourd. Il y en a qui disent, Seigneur, ce n'est pas la bonne prédication ou la belle prédication, parce que ce n'est pas ça. Ta parole m'a convaincu, Seigneur. Ta parole, Seigneur, a saisi mon cœur. Ta parole, Seigneur, a changé mon regard. Seigneur, je ne veux pas être dehors. Je ne veux pas rester dehors. Il y a quelques années de cela, j'avais été invité pour une bénédiction de mariage. Et à la fin de ce temps, la maman du marié me demande un entretien. Je sors avec elle à l'extérieur. Et toute la famille, elle, ils étaient derrière la vitre. Cette femme, elle était très connue pour être très colérique, un langage très fleuri, beaucoup d'épines. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire au pasteur et qu'est-ce que le pasteur est en train de lui dire? Et cette femme, elle me raconte sa vie, des choses qu'elle n'avait jamais racontées à personne. Elle me dit, je ne comprends pas, c'est la première fois que je vous vois et je vous dis des choses que même mon mari ne sait pas. Je lui ai dit, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi, donne-moi les paroles, donne-moi les paroles. Et cette femme m'exprime la souffrance qui était dans son cœur. Et Dieu me donne une parole pour elle. Et à un moment, je lui dis, vous savez, Dieu vous aime. Ah, si Dieu m'aimait. Je lui dis, Dieu vous aime. Et il n'y a pas de doute à avoir. Je lui dis, sauf que dans la direction que vous êtes en train de prendre, demain, vous ne serez plus avec votre fils, vous ne serez plus avec votre belle-fille, vous ne serez plus avec vos petits-enfants. Vous ne serez pas avec un tel, un tel, un tel, parce que vous avez refusé de marcher avec Dieu. Et là, cette femme, elle commence à pleurer, parce qu'elle prend conscience que sa décision qui était là lui empêchait de, finalement de vivre l'éternité avec Dieu et avec ceux qu'elle aimait. Et je lui ai proposé de prier. On a prié ensemble. Elle m'a pu rappeler. 2 semaines plus tard, sa belle-fille, elle m'appelle. Me dit Emmanuel, qu'est-ce que tu as dit à ma belle-mère? Je dis, oh là là, qu'est-ce que tu as fait, Emmanuel? Qu'est-ce que tu as dit à ma belle-mère? Je dis, non, mais attends, explique-moi qu'est-ce qui se passe, parce que ce que je lui ai dit, je ne peux pas te le répéter, c'est secret. Vous n'avez qu'à lui poser la question. Il dit, mais elle n'est plus la même. Elle ne parle plus comme avant, elle est souriante. Il dit, avant, tu disais, est-ce que tu veux sortir avec nous? Alors, elle t'envoyait faire une promenade pour visiter les décors de la ville. Il dit, maintenant, elle est souriante, elle vient, elle nous paye même des trucs. Elle avait des oursins dans les poches. Je me rappelle que le moment du mariage, puisque j'ai parlé de l'eau transformée en vin, elle me dit, pourquoi elle ne le fait pas aujourd'hui? Pendant le message. Pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Je dis, parce que vous avez suffisamment d'argent pour payer le vin. Ça a tout de suite calmé. La réponse a été directe. Je pense que c'est ce qui l'a encouragé à venir me parler après. Quand la parole de Dieu touche le cœur d'une personne, ça n'est jamais trop tard. Le Seigneur aujourd'hui vous invite, aujourd'hui. Le lendemain, il ne nous appartient pas. Moi, je ne sais pas. Je peux faire éventuellement des propositions au Seigneur. Seigneur, si je suis là au mois de septembre, j'aimerais bien, au mois d'octobre. Hein, moi, je sais que ma femme, elle prépare déjà les cadeaux pour les enfants, pour l'anniversaire, pour ceci. Elle a raison. Alors, je me dis, si je suis là, on verra. Je ne suis pas là. Amen. Amen. Ils ont eu le plus beau cadeau. Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire est terminé par ça. Ne passez pas à côté de l'invitation du Seigneur, s'il vous plaît. Même si je vous le dis d'une manière joyeuse, délicate, ça reste sérieux. Ça reste vrai. Ça reste profond. Si vous passez à côté de l'invitation de Dieu, si vous refusez de mettre cette robe que le roi des rois a préparée pour vous, si vous refusez de rentrer dans la salle des fêtes où il a tout préparé d'avance pour vous, il a préparé un repas digne d'être partagé, vous risquez de louper le seul choix qu'il ne fallait pas louper dans sa vie. On va fermer nos yeux. Seigneur, lorsque tu as parlé au peuple, lorsque toi-même tu leur as parlé du royaume des cieux, certains ce jour-là ont certainement fait un choix. D'autres ont agi comme tu leur avais exprimé. Encore aujourd'hui, Seigneur, si nous avons l'occasion de relire cette parole qui vient de toi, c'est parce que tu nous accordes encore aujourd'hui et tu nous apportes cette invitation. Garde-nous de faire l'erreur, Seigneur, de refuser cette invitation. Mais aide-nous, Seigneur, à accepter. Seigneur, merci parce que tu as préparé pour nous les habits des noces. Seigneur, par mes efforts, je ne pourrai rien faire. C'est par grâce, Seigneur, encore aujourd'hui que nous nous présentons devant toi. Et je te prie, Seigneur, d'accueillir dans tes bras, dans ta présence, dans ton royaume, tous ceux et celles, Seigneur, qui peut-être aujourd'hui sont aux croisées des chemins. Ils sont à un moment particulier de leur vie et ils ont besoin, Seigneur, de prendre une nouvelle direction. Peut-être ce matin, en se levant, ils n'avaient pas imaginé cette invitation. Et là, Seigneur, le temps presse. Le temps est court. Et Seigneur, malgré que nous, dans notre vie, on n'a pas su préparer nos vies, nos habits pour ce moment, Seigneur, toi, tu as préparé d'avance. Alors, Seigneur, donne-nous de rentrer avec toi et de partager avec toi, Seigneur, pas seulement ce repas, mais aussi l'éternité. Seigneur, que ta parole puisse saisir encore aujourd'hui les cœurs par l'action du Saint-Esprit. Je te le demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.